Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le président turc Erdogan félicite le candidat de l'opposition pour sa victoire à Istanbul. Il concède par là même sa plus forte défaite depuis 17 ans. Nous revivrons la soirée électorale en Turquie dans un instant. Nous nous pencherons aussi sur le sommet des deux rives organisé à Marseille par Emmanuel Macron. Il souhaite voir 10 pays de bord de Méditerranée coopérer sur des questions sociales et culturelles. Rien en revanche lors de cette réunion sur les questions migratoires. Dans cette édition, nous reviendrons sur le naufrage d'une embarcation en Méditerranée, c'était en 2013. 268 personnes étaient mortes. Le procès d'officiers italiens débute aujourd'hui. Et puis comment les hôpitaux s'organisent-ils à l'aube d'une canicule qui va toucher les trois quarts de la France cette semaine? Réponse en reportage dans moins de 10 minutes. Le nouveau maire d'Istanbul s'appelle donc Ekrem İmamoğlu. Il avait déjà remporté le scrutin lors de municipales en mars dernier, mais avec une très faible avance. Le parti au pouvoir du président Erdogan avait annulé l'élection. Peine perdue, puisque la victoire d'İmamoğlu hier est éclatante. Il devance son adversaire d'au moins 700 000 voix. Une victoire qui est surtout une cuisante défaite pour les islamo-conservateurs du président Recep Tayyip Erdogan, la première du genre en Turquie. Retour sur la soirée avec notre envoyé spécial, Eric Biegela.
Il était 19h15 hier soir, les bureaux de vote avaient fermé leurs portes depuis une heure et demie à peine quand le candidat du pouvoir, Binali Yildirim, s'est adressé à la presse depuis le QG du parti à Istanbul. Une allocution de 3 minutes à peine pour reconnaître sa défaite.
Selon les résultats non encore officiels, mon adversaire Ekrem İmamoğlu est en tête. Je le félicite et je lui souhaite une belle réussite. Les élections sont synonymes de démocratie et avec cette élection, la Turquie a prouvé une fois de plus que sa démocratie est sans faille.
Devant le siège de l'AKP, le parti du président, quelques militants excités parlaient encore d'en découdre physiquement avec ce traître d'İmamoğlu, cet allié des terroristes, comme il l'appelait, qu'il fallait éliminer. Mais dans l'ensemble, le camp du pouvoir a, semble-t-il, accepté sa défaite. D'ailleurs, quelques dizaines de minutes plus tard, le président Erdogan lui-même reconnaissait la défaite de son poulain et félicitait même, dans un tweet, le nouveau maire du Grand Istanbul. La victoire d'İmamoğlu hier est surtout la plus grande défaite électorale qu'ait connue le président Erdogan depuis 20 ans.
Et après ces municipales à Istanbul, le ressort de l'AKP est-il cassé? Question que posera Xavier Martinet à son invité dans les enjeux internationaux à 6h45 après ce journal. Donald Trump joue l'apaisement. Il assure qu'il ne voulait pas d'une confrontation armée avec Téhéran. « Je ne cherche pas la guerre », assure le président américain dans une interview diffusée hier soir. Il dit penser que les Iraniens veulent maintenant négocier, alors qu'aujourd'hui doivent entrer en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. Il s'y était engagé en février 2018 à l'occasion d'un déplacement en Tunisie. Le chef de l'État Emmanuel Macron concrétise aujourd'hui son sommet des deux rives. Une réunion internationale organisée à Marseille avec 5 pays de la rive nord de la Méditerranée, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Malte et donc la France, ainsi que 5 pays de la rive sud, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Les ministres des Affaires étrangères sont présents à Marseille. Ce matin, les sociétés civiles de ces 10 pays viendront présenter un agenda positif pour lancer une dynamique de coopération. De quoi s'agit-il, Anne Fauquemberg?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 5 forums préparatoires à cette réunion de Marseille sur les énergies, l'environnement, l'économie, la jeunesse ou encore la culture. Des forums qui ont eu lieu dans 5 pays différents et qui ont réuni environ 200 participants issus des secteurs associatifs, de la recherche ou encore de l'entreprise. Ces rencontres, elles ont permis de faire émerger 200 propositions et ce sont les meilleures idées qui seront présentées ce matin au président Macron. Il est question d'un réseau d'entreprises d'insertion pour les jeunes ou encore d'un projet d'investissement pour développer les nouvelles technologies dans les médinas maghrébines, des projets coordonnés par la prix Nobel de la paix 2015, la tunisienne Widad Bouchamaoui. Une initiative qui n'est toutefois pas dénuée de critiques. Jean-Paul Chagnolo, par exemple, avec son institut de recherche, l'IREMO, il a participé au forum sur la culture à Montpellier. Il relève une absence de ligne directrice. Le point faible de cette logique projet, explique-t-il, c'est la disparition d'une pensée sur la Méditerranée, avec en toile de fond, sur le plan diplomatique, les de la France et de l'Union européenne dans les grands conflits du temps.
La Méditerranée intime et historique des présidents français. C'est un article que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Ce sommet des deux rives, sommet positif donc, lors duquel il ne sera pas question de la crise migratoire, sujet pourtant commun et central pour les pays qui bordent la Méditerranée. Comme un écho à cette question, un procès s'ouvre aujourd'hui en Italie, procès d'officiers italiens poursuivis pour un naufrage d'une ampleur terrifiante. Le 11 octobre 2013, une embarcation coulait au large de l'île de Lampedusa avec des familles syriennes à son bord. Il y a eu 268 morts, dont une soixantaine d'enfants, Mathilde Imberti.
Le navire de la marine italienne qui peut intervenir ce jour-là ne bouge pas. D'après la reconstitution réalisée par l'hebdomadaire italien L'Espresso, il reste 5 heures sans recevoir d'ordre du centre de commandement à Rome. Pourtant, les autorités maltaises insistent au téléphone. Le patrouilleur tricolore est le plus proche de l'embarcation en détresse. En réponse, les Italiens renvoient eux vers Malte, tandis que les migrants, voyant l'eau monter, lancent des appels désespérés. On est en train de couler, faites quelque chose, on va mourir. Cette voix est celle de Mohamed Jamo, un médecin syrien qui fuyait la guerre avec sa famille et a vu deux de ses enfants se noyer. Il souhaite se porter partie civile aujourd'hui dans le procès. Après ce naufrage qui remonte à 2013, l'opération Mare Nostrum a été mise en place et les gardes-côtes italiens sauveront des centaines de milliers de personnes en se sentant bien seul dans cette entreprise.
Mathilde Imberti, depuis Rome pour France Culture. Il est 6h36 sur France Culture. Elle s'adresse aujourd'hui autant aux citoyens sans papier qu'aux Français les plus pauvres et aux travailleurs pauvres. L'association Emmaüs fête ses 70 ans. Elle organisait hier un grand salon, porte de Versailles à Paris. Julio Della Granja était président d'Emmaüs Europe de 2008 à 2016. Et pour lui, dit-il, la lutte contre la pauvreté est plus que jamais d'actualité.
On pense que parce qu'on est déjà au 21e siècle et pas au 20e siècle, que la pauvreté est moins importante. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. Depuis les 40 ans que je suis à Emmaüs, mon constat personnel, c'est que non seulement la pauvreté continue, mais je dirais même elle augmente. Il y a 40 ans, vous ne trouvez pratiquement pas de travailleurs pauvres. Donc, les travailleurs, celui qui avait un emploi, il n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre non plus. Donc, il savait mener sa vie plus ou moins d'une façon convenable. Aujourd'hui, notre constat, c'est que non seulement il y a une détresse au niveau des difficultés économiques, au niveau des sans-papiers, mais il y a aussi des couches des populations des pays en question qui n'arrivent pas à joindre les débuts et qui sont en difficulté. Et c'est une question à ça, vous l'avez très clairement en France avec les gilets jaunes. Donc, c'est des gens qui en ont ras-le-bol, qui n'arrivent pas à fin du mois, qui expriment parfois d'une façon violente, évidemment, nous à Emmaüs, on est tout à fait contre ça, mais parfois d'une façon responsable, qui expriment les ras-le-bol parce qu'à un certain moment, bon, il faut arriver quand même à un minimum vital pour pouvoir continuer à vivre.
Un des propos recueillis au salon d'Emmaüs hier à Paris, propos recueillis par Bastien Roch. La cour d'appel de Paris pouvait-elle ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert le 20 mai dernier ? La cour de Cassation examine aujourd'hui cette question juridique déterminante pour l'avenir de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans maintenant. La Cour de cassation se réunit à partir de 14h en assemblée plénière. Les hôpitaux auraient pu s'en passer. Après 3 mois de grève aux urgences, la canicule va mobiliser les personnels. Les températures vont dépasser 30 degrés cette semaine, du centre jusqu'à l'est de la France. Face au manque dans les services, on s'organise tout de même comme on peut. C'est un reportage de Véronique Julia.
Annick est infirmière dans un grand hôpital parisien. Elle affirme qu'elle est prête pour cet épisode de canicule. Celle de 2003 nous avait pris de court. Maintenant, dit-elle, on sait faire, mais avec les moyens du bord.
Évidemment, il n'y aura pas assez de ventilateurs. On ne pourra pas en mettre un par chambre. On va mettre des ventilateurs dans les couloirs. Ceux qui peuvent sortir de leur chambre, on pourra mettre des chaises ou des fauteuils dans le couloir. Mettre des draps mouillés devant le ventilateur pour faire un peu plus d'humidité. Mettre des draps glacés au congélateur.
Qu'est-ce qu'on fait avec les draps? Congelés.
On les pose sur les patients, ça les refroidit.
La climatisation, il y en a dans certains services, mais c'est loin d'être systématique, d'autant que la climatisation est techniquement compliquée à installer dans un hôpital et nécessite une maintenance coûteuse. Dans cet autre hôpital parisien, Aïcha, infirmière, elle aussi s'inquiète pour la semaine à venir. Dans le bâtiment le plus ancien de son hôpital, elle redoute que certaines chambres, dans les prochains jours, deviennent de vraies fournaises.
Dans les anciens bâtiments, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, elles sont toutes condamnées sous décision du directeur général suite à suicide d'un patient. Il y a aussi tout ce qui est volets roulants qui sont cassés, endommagés, voire inexistants.
Aïcha déplore aussi des fontaines à eau et des ventilateurs en nombre insuffisant. L'été dernier, déjà, les personnels de cet hôpital s'étaient plaints d'un établissement sous-équipé pour la canicule, avec des chambres où la température atteignait les 35 degrés.
Et cette année donc, en ce mois de juin, les fortes chaleurs arrivent donc sur l'Hexagone à partir de ce lundi pour une semaine caniculaire, excepté en Bretagne. Paris et la Seine-et-Marne sont déjà placés en vigilance orange pour canicule. Les températures passeront la barre des 30 degrés à la mi-journée, de la Lorraine jusqu'au sud de l'Aquitaine en passant par la région Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Côté ciel, la pluie va tomber sur la Bretagne et sur une partie de la Normandie ce lundi. Partout ailleurs, ce sera éclairci et quelques nuages selon Météo France. Merci.